Car nous sommes encore dans la partie sombre de l'histoire, mais qu'il est nécessaire de contempler pour comprendre la nécessité et l'importance de la venue du Seigneur Jésus-Christ et de la révélation l'Évangile. Et je vous invite donc à ouvrir dans la parole de Dieu dans la lettre de Romains, chapitre 2, et nous allons lire les 16 premiers versets. Romains chapitre 2, les versets 1 à 16. Et voici donc la parole de Dieu. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous poursuivons donc notre étude de ce livre et nous avons vu la dernière fois que Paul termine le chapitre 1er en parlant de la colère de Dieu qui se révèle contre les païens qui retiennent injustement captive la vérité. Ils ont une connaissance de Dieu que Dieu leur a donnée. Dans la nature, nous avons chanté tout à l'heure que la création déclare toute la gloire de Dieu, mais au lieu de se tourner vers Dieu et de l'adorer, ils se tournent vers la création, ils font de la création des idoles et Dieu révèle sa colère en livrant l'homme à son sens réprouvé. Mais ici, au début du chapitre 2, il y a un changement. Et déjà dans le style, dans la fin du chapitre 1er, Paul s'adresse à, il dit « ils font ceci, ils font cela ». Et là, Paul s'adresse plus directement, il parle de « toi » ou de « vous ». Et il utilise en fait un style littéraire dans lequel il va instruire ses lecteurs en les invitant à entendre une conversation entre lui, Paul, et quelqu'un qui tient une autre position, et en particulier ici, un juif qui se repose sur sa religion. Même si Paul ne le déclare pas, ne le décrit pas en tant que tel, il va le faire au verset 17. toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, etc., qui connaît sa volonté. On verra ça, Dieu voulant, la prochaine fois. Mais le langage qu'il utilise ici est clairement celui pour décrire le peuple, un juif qui se repose sur la loi, sur la religion juive. Paul a montré la dernière fois, nous l'avons vu, que les païens qui ont réprimé la vérité de Dieu sont inexcusables devant Dieu. Et Paul va maintenant montrer que les juifs sont tout autant inexcusables. Eux aussi ont réprimé la vérité que Dieu leur a donnée. Et nous allons voir ce passage sous trois titres. Tout d'abord, les cinq premiers versets nous allons voir que les juifs bien pensants sont autant coupables que les païens. Paul affirme au verset 1er qu'ils font les mêmes choses. Ils font les mêmes choses que les païens. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Bien entendu, il parle de ce qu'il a dit, de ce qu'il a mentionné dans la liste que nous avons vue la dernière fois, au chapitre 1er, les versets 29 et 30, est rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, etc. Il dit, mais voilà, les Juifs sont coupables de ces mêmes péchés, de ces mêmes réalités. Et toi qui juges les autres, toi qui te penses supérieur aux autres parce que Dieu a choisi le peuple d'Israël pour révéler sa loi, toi qui penses que les païens sont secondaires, sont une race inférieure, toi qui juges les autres, tu es inexcusable parce que tu fais les mêmes choses, parce que tu fais exactement les mêmes choses. Et le jugement de Dieu, comme Paul le souligne, est un jugement qui est impartial, que personne ne pourra y échapper. Dieu juge selon la vérité. Il s'appuie sur des faits, nous allons le voir tout à l'heure dans la deuxième partie. Et le jugement de Dieu est impartial, il est juste. Et même, il s'adresse même à ceux qui ont eu ce privilège d'avoir la loi de Dieu qui leur a été donnée, mais qui commettent le péché tout comme les autres. Se reposer, dit l'apôtre Paul, verset 4, se reposer sur la bonté, les richesses de la bonté, de la grâce, de la patience, de la longanimité de Dieu. Pour éviter le jugement, non, ça ne marchera pas. Ces termes, on retrouve le terme de bonté, par exemple, en Romains 11, verset 22, où il s'oppose à la sévérité de Dieu, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. On retrouve ce terme aussi dans les psaumes, qui parle de la bonté de Dieu envers son peuple Israël. Le terme de patience ne se retrouve qu'à un seul autre endroit dans la parole de Dieu, dans le chapitre 3 de Romains, verset 25. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Les Juifs avaient cette présomption de supériorité sur les païens parce qu'ils savaient que de toutes les nations de la terre, Dieu avait choisi Israël comme son peuple. Et le raisonnement était ainsi, si Dieu a choisi le peuple d'Israël, si nous sommes le peuple de Dieu, disaient les Juifs, nous ne pourrons pas connaître le jugement. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, parce que Dieu nous a choisis. Et la bonté, la patience de Dieu vont amener Dieu à ne pas prendre en compte notre péché. Voilà le raisonnement du peuple juif. Il y a beaucoup d'écrits dans la période intertestamentaire, beaucoup d'écrits juifs qui affirment cette position. Je ne vais citer qu'un exemple d'un livre qui s'appelle « La sagesse de Salomon », un livre apocryphe qu'on peut trouver dans les livres décrits comme étant donc, les livres apocryphes. L'auteur critique sévèrement les païens pour leur attitude dépravée. Les païens sont des idolâtres, des personnes immorales. Le langage est très proche de ce que Paul dit à la fin du chapitre 1er de Romains. Et puis l'auteur de rajouter ceci. Il dit « Mais toi, notre Dieu, tu es bon et vrai, lent à la colère et gouvernant l'univers avec miséricorde. » Et ensuite, un peu plus loin, il dit « Mais nous ne pécherons pas, sachant que nous sommes comptés pour tiens. Te connaître, en effet, est la justice intégrale, et à savoir ta force est la racine de l'immortalité. Nous ne pécherons pas. » Voilà l'attitude. Voilà l'orgueil, voilà la présomption de supériorité du peuple juif. Et Paul va s'attaquer à cette présomption, sans nier la faveur de Dieu, que cette faveur qu'il a accordée au peuple d'Israël. Paul va les critiquer au verset 4 pour avoir méprisé la bonté de Dieu, de l'Éternel à leur égard. Paul leur rappelle que la bonté de Dieu, la patience de Dieu, était destinée à les amener à la repentance, à se détourner du péché, à venir à lui dans la repentance et dans la foi. Et au lieu de ça, les Juifs considéraient cette patience de Dieu comme leur donnant une carte blanche pour vivre de manière impunie, de vivre impunément dans le péché. Et Paul dit que le résultat, verset 5, c'est que tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le peuple de Dieu s'amasse, le peuple d'Israël s'amasse à ce trésor de colère pour le jour du jugement. Mais Paul n'est pas le seul. Déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient condamné l'attitude du peuple d'Israël. Je ne citerai ici que Jérémie au chapitre 7. On pourrait lire tout le chapitre, mais à partir du verset 21, Jérémie écrit ceci. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé à vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. » Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les pensants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. C'est Jérémie 7, versets 21-28. Et Paul va plus loin que les prophètes de l'Ancien Testament. Il implique que les Juifs n'ont pas de réel avantage sur les païens. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Mais est-ce que cela veut dire que Paul nie ou renie la réalité de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël? Paul ne répond pas à cette question ici. Il le répondra un peu plus loin, chapitre 9 et 11. Ici, Paul veut souligner que les Juifs, avec tous leurs privilèges, avec toutes les bénédictions que Dieu leur a accordées, sont tout autant coupables que les païens. Ils sont tout autant coupables. Ils sont égaux devant Dieu, ils seront jugés avec impartialité, ils seront jugés selon la vérité. Et Paul va ensuite, donc, dans la deuxième partie, que nous donner la raison de cela. Dans les versets 6 à 11, la deuxième partie, Paul nous dit que Dieu va juger tous les êtres humains de manière impartiale, sur la même base. Le juif ne pourra pas prétendre être immunisé du jugement parce qu'il est juif. Et l'argumentation de l'apôtre Paul dans les versets 6 et suivants, 6 à 11, forme ce qu'on appelle un chiasme. On a déjà utilisé ce terme ici, où ça forme un peu, si vous préférez, l'argumentation où vous avez A, B, C, et ensuite C', B', A'. On va citer ça vite, rapidement. A, verset 6, « Dieu jugera chacun selon ses œuvres. » B, verset 7, « Ceux qui font le bien parviendront à la vie éternelle. » C, verset 8, « Ceux qui font le mal subiront la colère. » Et on revient ensuite, C', verset 9, « La colère est pour ceux qui font le mal. » B', verset 10, « La gloire est pour ceux qui font le bien. » A', verset 11, « Dieu juge de façon impartiale. » Et le point important se trouve donc aux extrémités de ce chiasme. Dieu juge avec impartialité. Paul cite au verset 6 l'Ancien Testament. Il y a plusieurs passages, les commentateurs ne savent pas trop. Il y a plusieurs passages, on peut citer par exemple Proverbe 24, verset 12. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ? Ou psaume 62, verset 13, « À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Et au milieu de ce chiasme, de cette argumentation, Paul va dévoiler les implications du jugement de Dieu pour deux catégories opposées de personnes. D'un côté, verset 7, « Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Et de l'autre côté, verset 8, se trouvent ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. L'expression « esprit de dispute » vient d'un mot grec, « eritheia », un mot que Aristote utilise pour décrire des politiques qui recherchent le pouvoir par ambition personnelle plutôt que pour le bien du peuple. Voilà l'idée derrière esprit de dispute. Et Paul dit, de telles personnes récoltent l'irritation et la colère. Deux termes que Paul rassemble pour vraiment accentuer la notion de condamnation. Et pour être sûr qu'on n'a pas loupé quelque chose dans l'argumentation de Paul, il va le résumer dans les versets 9 et 10, en rajoutant l'expression suivante, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et Paul applique cette expression à la fois pour le salut et pour la condamnation. Quand le peuple d'Israël répond positivement à la voix de Dieu, le peuple juif est le premier à recevoir la bénédiction. Mais en répondant négativement à la voix de Dieu, le peuple juif est le premier à être jugé. Mais qu'est-ce qu'on doit penser du langage de l'apôtre Paul ? Quand il dit que Dieu jugera à chacun selon ses œuvres, Paul n'enseigne-t-il pas ailleurs que nos œuvres ne peuvent pas nous réconcilier avec Dieu? On connaît ce verset qu'il dira plus tard au chapitre 3 et au verset 20, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. On connaît ce verset en Éphésiens chapitre 2. Versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors qu'est-ce que Paul veut dire? Et c'est là que notre étude sur le livre de l'Apocalypse devrait nous aider. Rappelez-vous, Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, nous avions la vision du trône. Le trône blanc de Dieu, le trône de jugement. Et Plusieurs livres ont été ouverts. Et le livre de vie a été ouvert. Et ceux qui sont en Christ, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, ne viennent pas en jugement. Par contre, tous les autres sont jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, sont jugés d'après leurs œuvres qui sont écrites dans les livres. Verset 12, Apocalypse 20, verset 12, dit ceci, « Je vis les morts, dit l'apôtre Jean, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Nous le savons, et c'est bien de le répéter, qu'il n'y en a qu'un seul qui a fait le bien, qui a satisfait toute la loi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont unis à lui par la foi ont la vie éternelle, ne passent pas en jugement, parce que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui est leur représentant, qui est leur substitut, son œuvre est parfaite. Dieu juge tous les hommes sur la même base, leurs œuvres, l'œuvre soit de leur propre justice ou alors l'œuvre d'un substitut. Le jugement de Dieu est impartial. Jésus lui-même a dit en Jean 5, verset 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Comment est-ce que nous allons nous tenir devant Dieu? Est-ce que nous allons nous tenir avec notre propre justice et être jugés selon nos œuvres? Et là, nous savons que c'est la condamnation. Ou est-ce que nous nous tenons en Christ, comme nous avons chanté tout à l'heure? Est-ce que nous nous sommes cachés en Christ? Et que c'est son œuvre qui est présentée devant Dieu. Une œuvre que Dieu accepte. Et tous ceux qui sont cachés en Christ sont acceptés. Parce que l'œuvre de leur substitut est parfaite. Dieu juge de manière impartiale, selon les œuvres. C'est un jugement qui est juste et qui est selon la vérité. Et Paul nous amène au troisième point. Et il aborde ici la question de la place de la loi. Il a dit que les Juifs sont tout autant coupables que les païens parce qu'ils font les mêmes choses, même s'ils jugent les païens, ils ne sont pas meilleurs qu'eux. Eux qui, les Juifs pourtant, ont reçu les privilèges, les bénédictions que les païens n'ont pas eues. Et ils sont et la loi que Dieu leur a donnée occupe la première place. Ils sont désireux ou sous cette l'emprise de cette loi. Et Paul veut montrer que la possession de la loi ne donne pas un avantage aux Juifs. Ce n'est pas posséder la loi qui compte, c'est accomplir la loi. C'est faire la loi. Et encore une fois, nous savons qu'il n'y en a qu'un seul qui l'a accompli. La division, verset 12, entre ceux qui ont péché sans la loi et ceux qui ont péché avec la loi, correspond à cette division que nous avons dans le monde. Il y a le peuple d'Israël, à qui Dieu a donné toutes les bénédictions, qui a donné la loi, et toutes les privilèges. Et puis il y a aussi les païens, les nations, les autres nations. La loi, cette loi de Moïse, cette Torah, avec les demandes qui sont imposées sur le peuple d'Israël. Et ce n'est qu'à Israël que cette loi a été donnée. Sur le mont du Sinaï. Ils étaient tenus de l'appliquer. Le juif qui pêche sous la loi, le païen pêche sans la loi. Mais dans les deux cas, il pêche. Et dans les deux cas, c'est la condamnation. Pourquoi le fait de pêcher sous la loi amène-t-elle la condamnation? La loi, est-ce que la loi ne peut pas protéger le juif? Paul y répond au verset 13. Non. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Et comme nous l'avons déjà dit, et comme nous devons le répéter, il n'y en a qu'un seul qui l'a mise en pratique. Il n'y en a qu'un seul qui l'a appliqué, qui a accompli toutes les exigences de cette loi, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui se verra, comme dit Paul, à la fin de l'histoire. Il nous le dit au verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des âmes. Dieu jugera avec équité, avec impartialité, selon la vérité. Les religieux, les hypocrites qui ont cherché à manifester, à montrer quelque chose aux hommes, seront jugés. Non pas sur ce qu'ils ont déclaré être ou cherché à montrer, mais sur ce qu'ils sont en réalité et sur leur relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul nous parle aussi brièvement de la relation des païens avec la loi. Les païens, les nations n'ont pas reçu cette loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël par le biais de Moïse. Mais malgré cela, ils peuvent faire ce que prescrit la loi à certaines occasions. Quand les païens, verset 14, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils ont une certaine connaissance des exigences de Dieu. Paul parle au verset 15 de conscience. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Les Juifs ont reçu la loi dans sa version écrite, dans sa version complète. Mais tous les humains, les autres, les nations, les païens autour, ont une connaissance de cette loi de Dieu dans le sens général. Une notion de bien et de mal. C'est intéressant de noter que Paul précise que c'est l'œuvre de la loi qui est écrite dans leur cœur. Il ne dit pas que c'est la loi qui est écrite dans le cœur. Ça, c'est pour le peuple de Dieu. Rappelez-vous Jérémie 31, verset 30, où Dieu écrira la loi dans les cœurs. Ici, il parle de l'œuvre de la loi, c'est-à-dire son enseignement sur le bien et le mal. Il n'y a pas de relation avec l'auteur qui a donné la loi. Il y a simplement une notion de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et ça, c'est écrit dans les cœurs. C'est ce qui pousse les hommes à faire, dans beaucoup de cas, ce qui est juste. Et quand ils font ce qui est juste, leur conscience, leur pensée va les défendre, va leur dire qu'ils font ce qui est bien, ce qui est selon la loi, ce que Dieu demande. Mais ils ne font pas toujours ce qui est bien. Ils ne vont pas toujours obéir à Dieu. Et quand ils ne le font pas, leur propre conscience les accuse. Paul nous dit donc qu'il n'y a pas seulement les nations, les païens qui retiennent injustement la vérité captive. Les Juifs sont autant coupables que les nations autour d'eux. Le jugement de Dieu, il est juste, il est impartial, il est selon la vérité et il est sur la même base pour tous les hommes, qu'ils soient sans la loi ou qu'ils soient sous la loi. Le jugement de Dieu est sur la même base, les œuvres. Est-ce que l'homme vient devant Dieu avec ses œuvres, sa propre justice, sachant qu'elle le condamne, ou est-ce que l'homme s'approche de Dieu avec l'œuvre parfaite du substitut, du Seigneur Jésus-Christ. L'homme a une connaissance naturelle de Dieu, nous l'avons dit, mais il la rejette. La loi n'apporte pas la solution. Comme Paul va le dire plus tard, nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà la situation de l'humanité. Ceux qui sont en dehors de la loi, que nous l'avons lu la semaine dernière, ceux qui ont reçu la loi, qui ont reçu ce privilège, sont tout autant condamnés. Tous ont péché, dit Paul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on a hâte d'arriver à la suite. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà la terrible situation de l'humanité. Même la loi que Dieu a donnée, même les privilèges que Dieu a donnés à une nation ne peut pas amener le salut. Il faut absolument la venue du Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme substitut, comme celui qui accomplit, le seul qui accomplit toutes les exigences de la loi et qui vient réconcilier l'homme avec Dieu. Que Dieu donc nous aide à saisir la situation terrible dans laquelle tout homme se trouve, qui nous aide à voir aussi l'unicité de l'Évangile et la merveille de cet Évangile, que dans cette situation terrible dans laquelle tout homme se trouve, qu'il soit avec la loi ou qu'il soit sans la loi, il est sous la condamnation de Dieu. Et que le seul moyen, la seule dynamite, le seul sauveur est le Seigneur Jésus-Christ. Il était donc nécessaire de révéler la justice de Dieu et de montrer sa colère contre le péché, contre l'homme, le pécheur, pour révéler aussi sa grâce en Jésus-Christ, dans le don de son Fils, comme Seigneur et Sauveur de tous ceux, de son peuple, de tous ceux qui croient en lui. Que Dieu donc bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Amen.